Les par actualité. Bienvenue à l'émission Les Paractualités, Hélène Denis qui est au micro. J'espère que vous allez bien en ce 7 novembre 2017. En manchette aujourd'hui, Mémo Québec félicite Valérie Plante et souhaite qu'elle passe rapidement à l'action en ce qui concerne la mobilité et l'accès à l'habitation des personnes en situation de handicap. Défense des droits, un prix pour le comité des usagers du lac des Deux-Montagnes. Course en fauteuil roulant, coup dur pour Diane Roy au marathon de New York. Et en entrevue, je reçois Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, le RUTA Montréal, au sujet des avertisseurs sonores qui doivent être installés sur les bus électriques, et aussi Naomi Douarilus, animatrice intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec, qui vient nous parler d'un sport, le tennis sonore. Sur newswire.ca, Mémo Québec félicite Valérie Plante et souhaite qu'elle passe rapidement à l'action en ce qui concerne la mobilité et l'accès à l'habitation des personnes en situation de handicap. Moelle Épinière et Motricité Québec tient à féliciter chaleureusement Projet Montréal et Valérie Plante pour leur élection. Du même souffle, l'organisme invite la nouvelle mairesse et son équipe à travailler ensemble afin de résoudre d'importants problèmes qui touchent les personnes handicapées, notamment celles à mobilité réduite. En effet, Mémo Québec salue les divers engagements pris lors de la campagne électorale de Projet Montréal, notamment en ce qui concerne la mobilité citoyenne. Pour Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec, il est très positif que la mairesse de Montréal désire améliorer la mobilité des citoyens ainsi que leur sécurité routière. Dans cette harmonisation, nous désirons rappeler qu'il est important d'y inclure les personnes handicapées qui utilisent entre autres des fauteuils roulants, manuels ou motorisés. Mémo Québec a l'intention d'attirer l'attention de la nouvelle administration de la ville sur des questions comme le déneigement des rues et trottoirs, l'accès au transport collectif, le service de transport adapté, la sécurité sur les trottoirs et les pistes cyclables des personnes en fauteuil roulant, la gestion et le respect des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Ayant dans leur programme électoral des engagements sur l'accessibilité des stations de métro, ainsi que sur le déneigement prioritaire pour les personnes à mobilité réduite, nous sommes sûrs qu'en travaillant ensemble, nous parviendrons à faire de Montréal une ville plus inclusive, déclare Sarah Limoges, organisatrice communautaire en défense des droits pour Mémo Québec. Sur lelézard.com, le gouvernement du Québec inaugure une troisième superclinique en Montérégie. Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité des services de première ligne, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a inauguré la superclinique Pierre Boucher. Il s'agit de la troisième de la région de la Montérégie et la 20e au Québec. Cette superclinique offre ses services à la population depuis le 10 septembre dernier. Elle fournit à ses patients une accessibilité de 84 heures par semaine, soit 12 heures chaque jour, incluant la fin de semaine de 8 heures à 20 heures. Les services de prélèvement sont disponibles sur place et fournis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Les services d'imagerie médicale sont eux aussi offerts dans le même édifice. Je salue la mobilisation de l'équipe de la super clinique Pierre Boucher qui vient améliorer de manière concrète l'accès aux soins de première ligne, a déclaré le ministre Barrette. La superclinique doit répondre aux critères habituels conditionnels à la désignation de superclinique de niveau 3 qui sont, rappelons-le, d'offrir un minimum de 40 000 consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits au médecin de ce GMF, de permettre aux patients d'avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite ou dès le lendemain en téléphonant 3 heures avant la fermeture, d'offrir des services de prélèvement et d'imagerie médicale de proximité, d'utiliser un dossier médical électronique certifié, de s'engager à répondre aux besoins de la population en cas d'une augmentation de la demande des services. Elle s'engage aussi à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous Santé Québec lorsque celui-ci sera implanté dans la région. Et au bout du fil, Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, le RUTA Montréal. Bonjour, M. Poulin.
Bonjour, Mme Denis. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
Merci, vous êtes bien aimable. La STM entend se doter d'une flotte de bus électriques dans les prochaines années. Et on voulait savoir où en était-on dans les consultations des personnes non-voyantes qui craignent de ne pas entendre le bus arriver.
Bien, évidemment, on a fait des tests terrain au printemps dernier et le son proposé, qui est le son de la Nissan Leaf, est pas tout à fait assez fort, non, ce qui fait en sorte que les personnes ayant une limitation visuelle et ou auditive, parce que les personnes du syndrome de Usher font partie de ça aussi, ils n'entendent pas arriver l'autobus, ils n'entendent pas démarrer et tout ce qui les empêche de faire des traversées ou des transports sécuritaires. Alors, on a soumis ça à la STM et évidemment, il y a tout un aspect du standard américain qui n'est pas adopté encore. Donc, tout ça doit se travailler avec la STM. Mm-hmm. Pour l'instant, eux attendent un peu ça, mais en même temps, on craignait l'arrivée de bus électriques. On sait qu'il y en a déjà 3 dans les circuits Verdun.
Vous avez réagi récemment sur Facebook à une annonce de la STM, Mouvement Collectif. Pourquoi?
Ben en fait, ce qu'ils ont dit, c'est puis là, évidemment, il y a eu, semble-t-il, qu'il y a eu
rétractation.
Il y a eu une forme de rétractation, c'est-à-dire qu'il y a eu une publication, on ne sait pas trop d'où est l'origine, disant, écoutez, tout est parfait pour les autobus électriques, les personnes ont été consultées, le milieu associatif est en accord, ce qui n'était pas le cas. Non. Alors, c'est sûr que nous, ici, on a réagi en disant, non, attendez un peu, là, c'est pas si simple que ça.
Alors, ils ont dit que, finalement, ils avaient peut-être trop été positif.
Ce qu'ils ont dit, c'est effectivement, le milieu associatif a manifesté certaines craintes. Évidemment, le test qu'on a fait n'était pas scientifique, on s'entend, mais nous, ce qu'on demande là-dessus, c'est des analyses audiologiques de ça. Et on verra par la suite, mais c'est sûr que nous, ça demeure une préoccupation pour nous.
Alors, vos recommandations, ça commence par des analyses, c'est ça?
Oui, bien, premièrement, c'est ce qu'on recommande pour l'instant, parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est rendu compte que les gens entendaient l'autobus à moins d'un mètre d'elle, donc des personnes, ce qui fait que c'est problématique.
Bien, je comprends. Est-ce qu'on vous est revenu à ce sujet-là?
Oui, bien là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'évidemment, comme je vous dis, on parle du standard américain. C'est un dossier hyper complexe, parce qu'on sait très bien que les sociétés de transport ne fabriquent pas elles-mêmes les autobus. Donc, comment elles vont pouvoir s'adapter à ça? Mais c'est sûr que les recherches vont se poursuivre de leur côté. Ouais. Ils vont nous revenir avec autre chose là-dessus.
Alors, au moins, vous sentez qu'il y a une collaboration, une compréhension?
Ben, en tout cas, oui, il y a une ouverture, puis on est conscient, parce qu'il y avait des gens de la STM lorsqu'on a fait les tests, et ces gens-là sont conscients de la problématique particulière.
Bon. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on retrouve dans votre bulletin d'information cette saison, cet automne?
En fait, le sujet dont je devais vous parler plus ce matin, d'ailleurs, vous m'avez sorti un petit peu de ce que je devais faire, mais c'est pas grave, c'est parfait. On voulait parler...
Vous me l'apprenez.
On voulait parler du niveau sonore dans les autobus, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus d'autobus sont munis d'haut-parleurs qui annoncent les arrêts.
Ouais.
Aux intersections dans les autobus, et il y a l'afficheur qui rend visuel ce qui est sonore. Okay? Cependant, ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que le son est souvent très peu audible, les gens n'arrivent pas à entendre le nom de l'intersection et tout.
Ouais.
Alors, ce qu'on nous a demandé, c'est de documenter ça avec des personnes non pas juste handicapées, parce qu'on s'entend que d'entendre le nom d'une intersection, ça peut servir à un touriste, une personne âgée, une personne qui a différentes limitations.
Mm-hmm.
Donc, c'est toujours utile. Et en même temps, pour les personnes qui voient, elles ont le visuel. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on ne l'entend pas bien. Et il y a eu des démarches, supposément que les autobus seraient tout. On a réglé, suite à nos recommandations, les sons, mais on se rend compte que dans le concret, ça ne fonctionne pas tout à fait. Alors, ce qu'on nous a dit, c'est documenter nous ça. Alors, ce qu'on demande, on invite vos auditeurs, vos auditrices, ainsi que vous-même, si vous prenez le transport en commun, on est dans ça actuellement, à nous faire part de leurs constatations lorsqu'elles prennent des autobus.
Ah oui, d'être plus sensible.
Oui, d'être plus sensible, puis de le noter, puis de nous l'envoyer de façon à ce qu'on puisse leur garder.
À l'écoute, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est le cas de le dire. On n'a pas la berlue, on veut documenter ça.
Oui,
alors, puis la STM, je les comprends aussi, ce qu'ils nous disent, c'est si on n'est pas documenté, on ne sait pas. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est de nous faire part. Par exemple, je vous donne un petit peu les critères qu'on va utiliser.
Oui.
Donc, le numéro de la ligne que vous allez prendre. Bon, on va dire exemple... 24 Sherbrooke-Est.
Mm-hmm.
Ça, mettons, là, ça pourrait être n'importe quel.
Oui,
c'est
oui.
Juste pour vous donner un exemple concret. Ensuite, on va vous demander l'heure à laquelle vous avez embarqué. Et ensuite, est-ce que le véhicule vous semblait achalandé? Ça, vous allez me dire, c'est plus complexe pour une personne qui a une limitation visuelle, mais on peut y aller genre plein, moyen ou pas beaucoup de gens.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'on est quand même capable de sentir ça généralement.
Je pense que oui.
Et parce que ce qu'on nous dit, c'est que l'autobus devrait, le son des haut-parleurs devrait s'ajuster en fonction du bruit ambiant. Et ça, nous, on n'est pas tout à fait convaincus non plus que ça fonctionne.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est pour ça qu'on demande l'achalandage. Et où êtes-vous situé dans le bus? Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'arrière, il sonne beaucoup plus fort parce qu'il y a le bruit du moteur, évidemment.
Mm-hmm.
Au milieu, ça serait moyen. Et en avant, moyen aussi, moyen et bas, disons. Mais ce qu'on constate encore là, comme je vous dis, c'est que c'est pas le cas.
Et c'est pas nécessairement la même chose. Il se passe pas la même chose d'un bus à l'autre.
Bien là, ce qu'on entend, c'est qu'on entend pas beaucoup les sons. Ben c'est ça, exactement. C'est ça qu'on veut valider. Nous, en tout cas, les personnes jusqu'à date qui répondent à l'enquête, on constate que c'est dans différents autobus. C'est ça qu'on veut vérifier aussi.
Mm-hmm.
Évidemment, il y a toute la description du sonore. Est-ce qu'il est très fort? Est-ce qu'il est moyen ou est-ce que vous l'entendez à peine?
Bon.
Donc,
qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a pris le bus, puis on a pris tout ça en note, on vous écrit?
Oui, vous pouvez me les envoyer à direction @rutamtl.com.
Bon,
Et nous, on va s'assurer de faire un suivi parce que, historiquement, on a dit il y a quelques années, bon, on accepte parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais anciennement, les places avant étaient réservées aux personnes qui ont des limitations, justement dans le but de demander au chauffeur à quel endroit débarquer. Alors, ce qu'on a dit, c'est, étant donné maintenant qu'on a rendu les autobus accessibles, ce qui est génial pour les personnes en fauteuil roulant, nous, on doit aller un petit peu plus loin, ce qui est correct, mais on a dit, assurez-nous qu'on va pouvoir entendre l'arrêt où est-ce qu'on est rendu. Et comme je vous dis, ce n'est pas que pour les personnes qui ont une limitation visuelle, mais pour l'ensemble de la clientèle.
Oui. Bien, merci beaucoup, M. Poulain. Puis on s'intéresse à ce dossier, puis on va certainement se reparler.
Bien, ça sera avec plaisir, Mme Denis.
Bonne chance.
Au revoir.
Au revoir. Défense des droits, un prix pour le comité des usagers du lac des Deux-Montagnes. C'est dans l'éveil.com, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides tient à féliciter le comité des usagers du lac des Deux-Montagnes pour son prix d'excellence remporté le 19 octobre dernier lors du congrès annuel du regroupement provincial des comités des usagers, RPCU. Le comité y a reçu le prestigieux prix de la catégorie Défense des droits. Le comité des usagers du lac des Deux-Montagnes a mérité cette reconnaissance pour la réalisation d'un sondage sur le degré de satisfaction des usagers des services de soutien à domicile et la mise sur pied d'une table de vigilance faisant suite à cette démarche d'évaluation. Nous applaudissons haut et fort le travail réalisé par le comité des usagers du lac des Deux-Montagnes qui a pour but de veiller à la satisfaction des personnes qui font usage de nos soins et services. S'est réjoui le président-directeur général du CI3S des Laurentides, Jean-François Foisy. Celui-ci a également tenu à souligner la mise en nomination comme finaliste du comité des usagers de la direction des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique pour la réalisation du super bottin de ressources et activités remis aux usagers. En plus des 657 membres de comités venus de partout au Québec pour la remise de ces prix, on pouvait compter sur la présence de deux ministres québécoises, soit Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, ainsi que Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. La Fondation Dixville-Holm, qui vient en aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, a lancé la semaine dernière la plus importante campagne de souscription de son histoire. C'est sur le site de Radio-Canada. Depuis l'intégration de la Fondation du Centre Notre-Dame de l'Enfant, les demandes d'aide financière des familles ont quadruplé. L'organisme peut compter cette année sur un président d'honneur qui a la cause à cœur. Son garçon est atteint d'autisme. Nicolas Pépin n'a pas hésité avant d'accepter la présidence d'honneur de la campagne de financement de la Fondation Diville. Sa conjointe et lui savent à quel point l'aide est importante pour les familles. Un enfant ne vient pas avec un mode d'emploi, un enfant autiste non plus. Mon fils est un petit garçon qui ressemble à tous les autres sur la cour d'école, mais il est différent, il est autiste. Nicolas Pépin et sa conjointe Danielle Boisvert ont appris l'existence de la Fondation Diville il y a peu de temps. L'organisme, qui dessert la communauté bilingue de l'Estrie, existe depuis 40 ans et est surtout connu de la communauté anglophone. Depuis la fusion avec la fondation du CNDE, les demandes de financement sont passées de 28 en 2015 à une centaine en 2016-2017. Je crois que ce sera en croissance à tous les ans. L'intégration des deux fondations y est pour quelque chose, mais il faut aussi tenir compte du fait que le taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme est en hausse aussi. La Fondation Diville espère amasser 50 000 $ avec sa campagne qui a pour principale activité une soirée vin et fromage le 10 novembre prochain. L'organisme lance du même coup son tout nouveau site Internet fondationdiville.org afin de faire connaître l'ensemble de ses services. Et maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Naomi Doirilus, animatrice intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec. Bonjour, Madame Doirilus.
Bonjour.
Alors, c'est la reprise du tennis sonore en janvier 2018. Les amateurs sont consultés sur la formule idéale. D'abord, qu'est-ce que le tennis sonore?
Oui, en fait, c'est un sport adapté du tennis qui se joue sur un terrain de la taille d'un terrain de badminton avec une balle en caoutchouc qui a un noyau solide et elle émet un son distinct quand elle est frappée ou quand elle rebondit. Mm-hmm. Ce sont d'ailleurs ces rebonds qui permettent de localiser la balle. Donc, il peut y en avoir jusqu'à 3 si la personne est non-voyante.
D'accord. Et vous consultez vos membres cette année sur la meilleure formule de cours. Quels sont les choix que vous leur proposez?
Tout d'abord, les membres peuvent choisir parmi 3 endroits, sur les loisirs Saint-Henri, le centre Jean-Claude Malépart et le centre Saint-Denis, que nous savons accessibles car nous les avons nous-mêmes visités. De plus, les 3 gymnases sont à moins de 3 minutes d'une station de métro, ce qui est très pratique.
Ouais.
Ils peuvent également faire leur choix en déterminant la journée et la plage horaire qu'ils préfèrent, soit en soirée le vendredi, en après-midi le samedi ou en soirée le dimanche.
Alors, comment vous allez départir, choisir? J'imagine que c'est comme aux élections, là. C'est le meilleur qui va l'emporter ou celui qui a remporté le plus de votes ou de choix?
Oui, c'est ça. Et pour
le lieu et l'heure?
Oui, pour le lieu et l'heure, ça sera selon le plus de choix pour... l'endroit.
Mm-hmm.
Et les personnes intéressées n'ont qu'à se rendre sur le site internet sportsaveugles.qc.ca pour trouver le sondage et à me transmettre le sondage par courriel avant le 17 novembre.
D'accord. Donc, les membres peuvent voter dès maintenant?
Oui, c'est ça.
Oui. Et comment vont se dérouler les cours?
La session dure 10, 12 ou 14 semaines selon la formule qui aura conquis le plus de membres. Il y aura un instructeur féru de tennis qui va enseigner les techniques et adaptera le cours selon les participants. On recherche également des bénévoles qui seront présents durant les cours.
Des bénévoles qui vont faire quoi exactement?
Qui vont pouvoir assister l'instructeur, comme être présent avec les membres qui en auront le plus besoin, par exemple. Et les membres pourront apprendre les consignes de sécurité, d'échauffement, pratiquer la manipulation de la balle en se pratiquant contre le mur et bien sûr procéder à des échanges entre eux. Et l'activité est ouverte vraiment aux personnes non-voyantes, malvoyantes et voyantes, donc c'est très convivial. Et cette année, ce qui est différent aussi, c'est qu'on va terminer par un tournoi.
Ah oui? Oui. Un tournoi qui va avoir lieu quand?
La séance finale.
Et ça sera au printemps, printemps 2018?
Je pense qu'on sera encore à l'hiver, vu que la session va durer tout au plus 14 semaines, mais oui, vers le printemps, c'est
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Ils auront eu le temps d'apprendre oui. Les rudiments.
Et est-ce que c'est un sport qui est bien populaire, le tennis sonore?
Il demeure méconnu, mais on a quand même... En général, on a autour de 6 à 8 inscriptions par séance avec un haut taux de présence. Donc, nous, on vise à le faire connaître encore plus, bien sûr. Mm-hmm.
Et si il y a des gens qui sont intéressés à peut-être explorer ce sport sans nécessairement s'inscrire, est-ce qu'il y a moyen de faire ça?
Oui, tout à fait. Il est possible de s'inscrire pour une séance d'essai.
Oui.
Toutes les informations par rapport aux inscriptions et tout vont être communiquées dès la fin novembre. On invite d'ailleurs les gens à devenir membres à s'inscrire pour recevoir notre clin d'œil mensuel. Il y aura toutes les informations là-dessus.
Très bien. Alors, donc, ils ont à choisir, vous invitez déjà les gens à choisir entre les endroits, les loisirs Saint-Henri, le centre Jean-Claude Malépart et aussi le centre Saint-Denis Relance des loisirs, Tout Neuf Inc., ainsi que les heures. Alors, vous les gâtez, les gens qui sont intéressés à jouer au tennis sonore. Rappelez-nous les coordonnées si on veut voter et s'inscrire.
Ça va être sur notre site internet www.sportsaveugles.qc.ca. Il y a une page pour trouver le sondage et vous pouvez me l'envoyer par courriel. Le courriel est indiqué au bas du sondage.
D'accord. Merci beaucoup, madame.
Merci. Bonne journée.
C'était Naomi Doirelus, animatrice intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec, ASAC. La Québécoise Diliane Roy a pris le 12e et dernier rang de la course en fauteuil roulant tenue dans le cadre du marathon de New York dimanche, nouvelle parue sur rds.ca. C'est un coup dur. Je pense que ça a été l'un des pires marathons de New York que j'ai fait, a mentionné la Sherbrookeoise. C'était vraiment pénible et difficile. Je n'avançais pas. La Suisse Manuel Char, 1h48min9s, a été la première à rallier la ligne d'arrivée devançant par 2min53s l'Américaine Tatiana McFadden, 1h51min2s, cinq fois championne sur le parcours new-yorkais, Amanda McGrory, 1h53min11s, également des États-Unis, a décroché la troisième place. Seulement les trois premières ont fait en bas de 2 heures. Les résultats et les chronos des autres m'ont un peu réconfortée. Était-ce moi ou mes nouveaux gants? Le vent était très fort et quand on sait que le record de parcours pour les femmes est sous les 1h45, on voit que ça n'a pas été facile pour tout le monde, s'est-elle consolée. Les nombreuses montées du parcours n'ont pas été favorables à l'athlète de 46 ans. Possédant de nouveaux gants depuis 2 mois, Diane Roy doit continuer à s'adapter. C'est une nouvelle technique, une nouvelle manière de pousser. La Québécoise a délaissé ses gants durs en septembre pour un format tiré d'une impression en 3D. Diane Roy se donne encore 2 mois pour décider si elle continue à utiliser ce nouvel équipement. La Québécoise concentrera ses efforts en vue des Jeux du Commonwealth qui auront lieu à Gold Coast, en Australie, au printemps 2018. La troisième édition de la journée qui a du chien au profit de la Fondation Mira s'est conclue avec succès hier, alors qu'un record de 551 498 $ ont été amassés. Depuis la première édition de l'événement, c'est donc plus de 1 500 000 que Groupe V Media et ses partenaires ont remis à la Fondation Mira afin de leur permettre de poursuivre sa mission et de faire une différence bien réelle dans la vie des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que des personnes touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs. Le champion québécois de snowboard, Sébastien Toutant, était l'ambassadeur de cette journée de sensibilisation et de collecte de fonds. Auteur, recherche, porte-parole pour production théâtrale, Otilia est une pièce de théâtre qui démystifie la réalité des non-voyants. C'est l'histoire d'Odile qui perd graduellement la vue suite à la rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative. Elle doit réagir à sa perte d'autonomie et entreprendre une réadaptation qui implique également son couple, sa famille et son milieu de travail. Une accusation de fraude vient s'ajouter à son drame. Comment s'en sortira-t-elle? Les deux auteurs sont à la recherche d'une personnalité publique dynamique et ayant à cœur cette réalité. Elle agirait comme porte-parole bénévole du projet de produire la pièce de théâtre Otilia devant public. Connaissez-vous quelqu'un parmi vos proches qui pourrait relever ce défi? Pour contacter les auteurs, Jean-Luc Morin, jean-luc.morin@commercialvideotron.ca ou Lise Veilleux, liseveilleux@videotron.ca, numéro de téléphone de M. Morin, 514-917-3343, et de Mme Veilleux, 438-398-9369. C'est tout pour l'émission Les Paractualités. Merci à mes invités, Serge Poulin et Naomi Douarilus. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis. Bonne journée. À bientôt.